Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de ce numéro de Mélomanie, l'un des derniers de l'année 2024 pour votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Et l'actualité musicale est toujours aussi prolifique en cette fin d'année. Rien d'étonnant, dans la mesure où à l'approche de la période dite des fêtes, on voit se multiplier les concerts de Noël, programmés par de nombreux orchestres et chœurs à Toulouse ou dans notre région, en attendant les concerts du Nouvel An dans 3 semaines. Nous avons donc beaucoup d'événements à vous annoncer et vous présenter au cours de cette émission. Je suis donc très heureux de pouvoir compter une nouvelle fois sur mon ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous recevons un invité d'honneur, l'organiste et chef de chœur Jean Percy, directeur artistique de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Cernin, qui donne son grand concert de Noël à Saint-Cernin ce samedi 14 décembre à 20h30. Je rappelle que Jean Percy produit également l'excellente émission Point d'orgue chaque semaine sur Radio Présence. Nous allons parler de tout ça avec lui en seconde partie de ce numéro, puisque dans l'immédiat, nous allons revenir sur la copieuse actualité musicale récente avec Serge. Retour arrière.
Mélomanie, retour arrière.
Bienvenue à tous les deux et merci d'être fidèles au rendez-vous de Mélomanie. Nous allons revenir tout de suite sur le deuxième concert de la saison des Arts Renaissants. Il a eu lieu mardi dernier, le 3 décembre, à l'église Saint-Jérôme de Toulouse. Elle était bien remplie pour accueillir l'ensemble Il Gardellino et Thomas Bloch, venu avec son harmonica de verre, cet instrument qu'on a très rarement l'occasion de voir et d'entendre en concert. Et rien que ça, c'était déjà un spectacle lui tout seul.
Ah, absolument, d'autant plus que Thomas Bloch ne s'est pas privé de présenter l'appareil, évidemment, qui a été donc, dans sa forme actuelle, inventé quand même par Benjamin Franklin en 1761. Donc c'est un instrument déjà ancien. Mais bon, dans un ensemble qui impliquait également l'ensemble baroque flamand Il Gardellino et qui réunissait ce soir-là Jan de Wijn, qui est flûte traversière, Marcel Ponzel, célèbre oboïste qui joue également du cor anglais, Johanna Huska au violon, Kat de Kock à l'alto, et Phyllis Bartholomeus au violoncelle. Donc, c'est Thomas Bloch qui a débuté en soliste la soirée avec l'adagio en do majeur pour glace harmonica, spécifiquement écrit pour glace harmonica, de Mozart, avec ses sonorités un peu venues d'ailleurs, et qui distille cette musique un peu étrange, avec pas mal de nostalgie dans cette première pièce. Ensuite, il a été remplacé par les musiciens de l'ensemble Gardellino, avec un quatuor en do majeur pour hautbois, violon, alto et violoncelle. Alors, d'un certain Joseph Fiala, que j'avoue, je découvrais, qui était un compositeur et oboïste natif de Bohême, un contemporain de Mozart, avec trois mouvements qui s'inséraient parfaitement dans l'esprit de la soirée, avec un magnifique solo de Marcel Ponzel au hautbois. Ensuite, l'épisode suivant a réuni trois partitions de la meilleure musique de chambre de Mozart avec son adagio pour cor anglais de violon et violoncelle. Et là, à cette occasion, on a redéfini ce qu'était un cor anglais, qui n'est ni un cor et qui n'est pas anglais. Donc,
c'est anglais.
Qui fait un angle, voilà, tout simplement, et qui n'est pas un cor, qui est de la famille des hautbois. Donc c'était une très belle exécution. Et puis ensuite, le quatuor en ré majeur pour flûte, violon, alto et violoncelle, que nous avions d'ailleurs entendu il n'y a pas si longtemps, dans un autre cadre.
Absolument. Musique au palais.
Voilà, musique au palais. Et donc là, on a repris plaisir avec cette flûte traversière en bois qu'utilise Jan de Wijn. Et puis ensuite, la troisième pièce mozartienne, c'était de nouveau avec Thomas Bloch en glace harmonica, dans l'adagio et rondo pour flûte, hautbois, alto, violoncelle et glace harmonica, avec un beau mélange entre tous ces instruments. Je signale que l'instrument, le glace harmonica, était légèrement amplifié, parce que c'est quand même un son très, très ténu,
ténu,
qui n'est pas très, très intense. Mais très bien fait, puisqu'on ne s'en rendait même pas compte. Ensuite, dernière pièce de la soirée, elle était signée de Johann Christian Bach, le fils de Bach, celui qu'on a appelé le Bach de Londres, qui nous a offert là son quintet en ré majeur pour flûte au bois, violon, alto et violoncelle. Alors c'est très amusant parce que c'est très mozartien comme style. On a l'impression d'assister à une discussion animée entre les instruments. Alors les applaudissements ont été très nourris. au point que tous les musiciens sont revenus pour donner un bis. Alors un bis un peu étrange, c'est un arrangement réalisé par Mozart d'un extrait de l'Aude à Sainte-Cécile de Handel. On sait que Mozart a également arrangé le Messie de Handel, qui est une chose qu'on ne joue pas très souvent. Mais c'est une belle version du Messie, donc signée Mozart, donc en quelque sorte. Et là, donc de nouveau, on a profité du charme du glas harmonica et on l'a pris ça comme une sorte de cadeau raffiné qui a conclu la soirée vraiment en beauté.
Oui, et je le redis, l'église Saint-Jérôme était très bien remplie.
Absolument.
Hein, pour découvrir le son et aussi l'apparence de cet instrument.
Oui, 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 oui.
Bon, je précise que Yann Devine et Marcel Poncel sont vraiment de très grands musiciens jouent notamment beaucoup avec Philippe Hervaig.
Oui, exactement. Donc, c'est une belle référence tout de même.
Nous allons écouter une dernière fois le son de l'harmonica de verre sous les doigts soigneusement humidifiés de Thomas Bloch, parce qu'il faut que les doigts se humident, mais en plus il faut que ce soit de l'eau calcaire. Ce n'est pas de l'eau du robinet, c'est vraiment un cérémonial assez précis. On écoute donc Thomas Bloch dans cet extrait de l'Adagio K356 de Mozart. Le son du glas harmonica de Thomas Bloch dans cet extrait de l'Adagio K356 de Mozart. Prochain concert des Arts Renaissants, mardi 7 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec le trio Zélia qui va jouer notamment le fameux trio Opus 100 de Franz Schubert. Jeudi dernier, le 5 décembre, le cycle des grands interprètes avait invité à la Halle au Grain l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le même qui s'est produit deux jours plus tard à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris, mais à Toulouse, il n'était pas dirigé par Gustavo Dudamel, mais par une vieille connaissance, Serge Tougantsokhiev.
Eh oui, donc Tougantsokhiev dirigeait là le premier des trois concerts qu'il va donner à Toulouse, tout de même, cette année. Deux concerts dans la série des grands interprètes avec l'Orchestre de Dresde, et puis il reviendra diriger l'Orchestre National du Capitole, évidemment, dont les liens ne se sont pas distendus, restent toujours très forts.
C'est le 19 décembre, c'est juste avant Noël. Hein.
Oui, oui,
donc
exactement.
C'est très bientôt.
Donc,
c'est...
ça redevient un habitué de la Halle au Grain.
Personne ne l'a oublié, même on le réclame à Toulouse.
On le réclame, et la Halle au Grain est pleine à chaque fois qu'il apparaît.
Oui.
Donc, c'était vraiment intéressant. D'autant plus qu'il était cette fois accompagné du grand pianiste français Jean-Frédéric Neuburger, qui est vraiment un excellent et grand pianiste, avec une première partie de soirée, alors qu'il bouscule un peu les habitudes, parce qu'il Il y avait en fait deux pièces concertantes pour piano et orchestre. La première étant un concerto de Joseph Haydn, peut-être le plus connu des 11 concertos pour clavier, et qui lui a été conçu pour le pianoforte et pas pour le clavecin, comme les précédents. Et donc Jean-Frédéric Neuburger l'a abordé ce concerto avec un jeu musclé, un jeu intense. Hein. Il ne faisait pas de la décoration, hein, pas du tout. Et d'ailleurs, l'orchestre qu'avait choisi Tougantsokhiev était un orchestre à cordes, mais très nombreux, très copieux donc, en quelque sorte. Donc on a eu vraiment une belle exécution intense et très colorée de ce premier concerto, avec surtout le rondo all'ungarese qui est le final de ce concerto, qui est vraiment irrésistiblement virevoltant, on pourrait dire. Hein. Ensuite, c'était le Capriccio. Alors, ça changeait complètement d'époque. Capriccio pour piano et orchestre d'Igor Stravinsky. La version finale qui date de 1949, avec par moments une animation presque frénétique, hein, avec des rythmes qui sont pas loin d'évoquer le Sacre du Printemps, exactement, et le jeu du soliste s'intégrait parfaitement dans les commentaires très colorés de l'orchestre. Donc vraiment un beau moment là aussi, très animé, très vivant, qui a obtenu un grand succès évidemment auprès du public. Et donc Jean-Frédéric Neuburger est revenu pour donner un bis. Alors dans le prolongement du Capriccio, puisqu'il s'agissait de la version originale pour piano d'Igor Stravinsky de Tango.
Oui,
un tango, vrai tango,
tango Stravinsky.
Qu'il a orchestré par la suite. Et là donc on a eu droit à cette magnifique pièce très originale.
Je précise que Jean-Frédéric Neuburger est également compositeur.
Oui, exactement.
Je m'attendais à ce qu'il joue une de ses compositions.
Et là non.
Bon, après il est quand même un peu dans la filiation Boulez, hein, donc Boulez, ça sera peut-être un peu dénoté après ce qu'il venait de jouer. Oui. Et puis c'est vous d'ailleurs qui me l'avez rappelé, c'est un grand ami de Bertrand Chamaillou.
Absolument,
était très content
oui. Ils sont très amis.
De venir à Toulouse.
Et il leur est arrivé souvent de jouer
à quatre mains.
Oui.
Ils ont été, je crois, ils ont dû fréquenter dans leurs jeunes années la classe de Jean-François Esser au CNSM de Paris.
Et grand
c'est là, je pense que leur amitié est.
Grand pianiste. Voilà. Et la deuxième partie, donc, elle était consacrée un peu à ce qui représente l'ADN de Tougansukiev, la symphonie numéro 2 de Rachmaninov, une symphonie aux vastes proportions, donc avec une intensité de lyrisme incroyable et qui, évidemment, qu'il dirige magnifiquement, avec un bel orchestre qui avait des tonalités vraiment russes, on peut dire, hein, pour un orchestre français, alors avec des couleurs, une énergie du désespoir par moments, très impressionnante. Je soulignerai surtout le sommet d'émotion de l'œuvre qui est l'Adagio, avec un sublime solo de clarinette qui a été magnifiquement joué par le clarinettiste de l'orchestre. Donc, très très beau, avec cette fin qui sonne comme une délivrance en quelque sorte, avec surtout la signature de Rachmaninov, le fameux rythme Rachmaninov, qui conclut de très nombreuses œuvres symphoniques et même pianistiques du compositeur. Ça a eu vraiment un succès extraordinaire. On a pu constater à quel point les musiciens eux-mêmes ont applaudi leur chef invité. Donc il y avait une entente parfaite entre...
C'est la deuxième fois, je crois, qu'il dirigeait le Philharmonique.
C'est possible.
Il avait déjà dirigé une fois. En tout cas, c'est la première fois à Toulouse, mais
on peut sans doute gager
qu'il y en aura d'autres. Mmh. Et puis, c'est un programme original parce que le 11e de Haydn, le Capriccio de Stravinsky, la 2e de Rachmaninov, on n'entend pas ça si souvent.
Non.
En tout cas, pas à Toulouse.
Ouais.
Voilà, prochain rendez-vous des grands interprètes. Il est programmé le lundi 16 décembre, toujours à la Lograin et à 20h, où le concert de la Loge va jouer les 4 saisons de Vivaldi en accompagnant des danseurs. On va en reparler en seconde partie d'émission. Changement de registre en revenant maintenant sur l'un des deux concerts ayant eu lieu vendredi dernier. En commençant par celui qui a donné la maîtrise de Toulouse à Saint-Pierre-des-Cuisines, un concert gratuit et ouvert à tous qui marquait le lancement du nouveau CD de la maîtrise. Serge, je vais vous laisser le plaisir et le soin de nous rappeler le titre.
Alors, le titre de cet album CD, 8e donc, c'est « Folk Song, Tour du Monde ». Des musiques folkloriques de diverses époques. Et sachez qu'il y a 21 pièces dans cet album et ça nécessite 17 langues différentes, des langues incroyables, improbables. Alors, je serais incapable de vous dire si elles sont bien prononcées, mais en tout cas, c'est impressionnant qu'un jeune chœur...
Je suis sûr que Marc Hopstadt leur fait bien travailler la prononciation.
Ah oui, absolument. Il faut quand même rappeler que la maîtrise de Toulouse a été créée en 2006 au sein du Conservatoire rayonnement régional de Toulouse et par Marc Hopstadt, orfèvre en la matière, puisqu'il est issu du Royaume-Uni. On sait que le Royaume-Uni, c'est vraiment la patrie des maîtrises et des chœurs. Donc, il en a fait un très beau, très grand chœur, qui a tout de même reçu en 2017 le prestigieux 27e prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, avec, dans l'édition spéciale, des maîtrises et chœurs d'enfants. Donc, c'est tout de même une sacrée référence.
Une grande distinction.
Et donc, on a pu constater au cours de cette soirée que ce chœur ne fait que confirmer, voire amplifier, la progression vers l'excellence, avec au programme de ce concert deux parties différentes. La première, tout simplement, est empruntée au répertoire britannique, puisqu'il s'agissait de « A Ceremony of Carols » de Benjamin Britten. Alors, évidemment, là, c'était la perfection absolue, hein, des chants écrits pour chœur à trois voix égales, avec une importante partie de harpe, il faut le souligner, parce qu'on a eu droit à une, vraiment une intervention de la harpe, qui a un interlude d'ailleurs pour harpe seule au sein de cet ensemble de chœurs, et je voudrais la nommer, elle s'appelle Dominique Puissant Cacciarino, et c'était vraiment de toute beauté.
Mais et Dominique donc, Puissant qui a la classe de harpe au CRR de Toulouse.
Exactement, mais vraiment c'était impressionnant.
Ancien élève de Marie-Claire Jamais au CNSM de Paris.
Exactement, et donc non seulement son accompagnement était idéal, mais alors son interlude ahurissant, qui demande une virtuosité incroyable, et alors elle dominait la pièce de manière absolue. Donc on a eu droit à toutes ces petites pièces courtes, hein, très vivantes, très animées de Benjamin Britten, avec cette précision, cette fraîcheur des timbres vocaux de ces enfants, dont on peut ne peut qu'admirer à la fois la précision, la justesse et l'expression. Donc un très beau moment. Et ensuite, c'était vraiment la présentation du nouvel album, qui passait d'abord par la projection d'une vidéo qui revenait sur les circonstances de son enregistrement en avril 2024 au Temple du Salin à Toulouse. C'est là qu'a été effectué l'enregistrement. Et puis ensuite, Marc Hopstad a dirigé donc quelques extraits significatifs de cet enregistrement, avec un chant lituanien lumineux, que peut-être on entendra d'ailleurs.
Allez savoir.
Oui, oui. Et puis ensuite, quatre Noël occitans qui ont été harmonisés par Marc Hopstad lui-même. Et donc, la soirée s'achevait alors sur un jingle bells traditionnel, mais pas traditionnel du tout en fait, puisque c'était une adaptation à la fois pétulante et originale, signée du Britannique Ben Perry. À cette occasion-là, on a vu à la fois les chanteurs et leurs chefs sortir des bonnets de Père Noël et s'en coiffer pour la fin de ce concert qui était tout à fait réjouissant.
Dans une salle, évidemment, qui était archi pleine et ils ont même refusé du monde.
Ah, absolument. Je dois dire que quand je suis arrivé, il y avait une queue de bien un kilomètre. C'était incroyable. Oui. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas pu assister.
Et le CD est en vente après le concert.
Ah oui, oui.
Et
voilà.
Je précise qu'il est paru sous le label Anima Nostra. Je vais vous faire découvrir l'une des pièces au programme de ce nouveau CD, Folk Songs Tour du Monde de la Maîtrise de Toulouse. Serge y a fait allusion il y a quelques instants. Il s'agit de Tikus Tikus, du compositeur lituanien Vaclovas Augustinas.
Thank you.
Ticus Ticus, pièce du compositeur Vaclovas Augustinas, chantée par la maîtrise de Toulouse sous la direction de Marc Hopstadt, un extrait du superbe CD Folk Songs Tour du Monde paru sous le label Anima Nostra. Voilà donc pour la maîtrise, et c'est une très belle idée pour un cadeau de Noël, je vous le conseille. Le dernier concert sur lequel nous souhaitions revenir est celui donné par l'Orchestre National du Capitole à Halle au Grain, vendredi également. Pour ce concert, l'orchestre était dirigé par la chef hongkongaise Eileen Chan et accompagnait le pianiste Jean-Yves Thibaudet dans l'exécution du concerto en fa de George Gershwin. La première, on la connaissait puisqu'elle avait déjà dirigé l'Orchestre du Capitole la saison dernière. Le second, on le connaît aussi bien sûr, mais il me semble qu'on n'a pas entendu depuis longtemps la Halle au Grain, quoique Jean-Baptiste Fra, le délégué général de l'orchestre, m'a dit qu'il était venu à Toulouse il y a 8 ans. Ça vous dit quelque chose, à vous, Serge? Moi, ça ne me dit rien, c'est assez curieux.
Il faut que je me replonge dans
mes archives. Pas si vieux que ça. Ouais, non, je pensais que c'était beaucoup plus ancien, la dernière venue de Thibaudet. Ouais. En tout cas, il fallait en profiter, justement, puisqu'il se produit de moins en moins souvent en France. Vous savez qu'il vit aux États-Unis et il joue surtout aux États-Unis.
Il a fait sa carrière aux États-Unis, l'essentiel de sa carrière.
Donc, la première œuvre au programme était le concerto en fa de Gershwin, qu'on n'est guère habitué non plus à entendre à Toulouse, je ne sais pas pourquoi. Il a été composé en 1925 à la suite d'une commande pour le New York Symphony Orchestra, et ce fut la première pièce que Gershwin orchestra lui-même. Il lui a donné d'ailleurs au départ le titre New York Concerto. Bon, après, il a changé finalement son fusil d'épaule. Alors, vous savez que l'influence du jazz se fait beaucoup sentir dans cette œuvre, notamment dans le mouvement lent, l'Adagio Andante con Moto, qui débute par un solo de trompette relayé par le hautbois puis par tous les instruments de l'orchestre. On y trouve cette couleur et ces rythmes jazzy qui détonnent évidemment avec tout ce qui pouvait se faire à l'époque, au point que les critiques ne surent pas où ranger ce concerto d'abord. Dans le classique ou dans le jazz, la direction énergique d'Elin Chan a très bien mis en évidence cet aspect rythmique et de manière générale la dynamique de l'œuvre, bien aidée en cela par la qualité que l'on connaît au pupitre des vents et des percussions de l'orchestre. Quant à Jean-Yves Thibaudet, il était parfaitement à son aise dans cette musique qui convient à merveille à son jeu, capable de passer de la virtuosité à l'émotion, de la puissance à la nuance comme cette œuvre l'exige. Il a d'ailleurs été longuement ovationné par le public à la fin et il est revenu pour jouer un bis. Ah, vous savez peut-être que Ravel et Gershwin se sont rencontrés aux États-Unis, je crois que c'était à New York en 1928, et puis l'année suivante, le Français a composé son fameux concerto en sol, dont de nombreux passages semblent assez largement inspirés par le concerto de l'Américain. Rien d'étonnant donc à ce que Thibaudet ait joué en bis, pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. Enfin, autre anecdote intéressante, lors de la création du concerto de Gershwin, deux de ses contemporains étaient présents dans la salle. Il y avait Stravinsky, dont nous avons parlé tout à l'heure, et Prokofiev, dont nous allons parler maintenant, puisque sa 5e symphonie était au programme en seconde partie du concert vendredi à la Halle au Grain. Eh bien, Stravinsky, qui aimait le jazz et qui était admiré de beaucoup de jazzmen, avait adoré le concerto de Gershwin, alors que Prokofiev l'avait détesté. Goûts et les couleurs, comme on dit. C'était amusant et un peu paradoxal de voir d'une certaine manière Prokofiev prendre la suite de Gershwin vendredi à la Halle au Grain, où Mademoiselle Chan a de nouveau dirigé avec une énergie et une autorité fort bienvenue la 5e symphonie du Russe, une œuvre composée en 1945 qui prend souvent des accents grandioses et qui célèbre l'esprit patriotique et la victoire de l'armée rouge sur l'armée du 3e Reich. Il y a notamment des motifs de fanfare militaire dans le deuxième mouvement, avec cet usage insistant des tambours, et puis comme souvent chez Prokofiev, un côté burlesque ou grotesque propre à sa musique, qui lui donne par moments ce côté décalé que personnellement j'aime beaucoup. Là encore, les vents et plus encore les percussions se sont particulièrement mises en valeur. Il y avait 6 percussionnistes pour jouer cette œuvre, et ils ont tous eu droit à une immense ovation du public à la fin. Une très belle soirée dans une Halle au Grain très bien remplie, elle aussi. Jean-Yves Thibaudet, après s'être changé, a assisté à cette interprétation de la 5e de Prokofiev. Et comme on n'a pas souvent l'occasion d'entendre ce grand pianiste à Toulouse et même en France, de manière générale, je propose de l'écouter dans une version de Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, la pièce qu'il a jouée en bis et qui inspira à son tour les jazzmen américains. Si vous écoutez le morceau intitulé « The Lamp is Low », vous verrez que c'est directement inspiré de Pavane pour une infante défunte de Ravel. On écoute Jean-Yves Thibaudet. Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, joué par Jean-Yves Thibaudet pour conclure cette première partie d'émission. Petite virgule musicale avant d'enchaîner avec l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et pour cet agenda de Mélomanie, je retrouve Serge Chosy et notre invité d'honneur, l'organiste et chef de chœur Jean Percy, directeur artistique de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin, qui donne son grand concert de Noël ce samedi 14 décembre à 20h30 à Saint-Sernin, son port d'attache. À ce propos, Jean Percy, je voudrais vous rappeler à nos auditeurs ce qu'est la Schola Cantorum aujourd'hui, parce qu'en fait, elle regroupe plusieurs formations qui ont chacune leur registre bien spécifique.
Absolument. La Schola Cantorum, c'est une aventure encore un peu jeune, qui a 5 ans, et qui comporte aujourd'hui 4 chœurs. Une maîtrise d'enfants, un chœur grégorien, un chœur d'hommes et le grand chœur, qui est le chœur mixte que je dirige, avec cette spécificité propre qui est de chanter les offices et les célébrations à Saint-Sernin, et également avec une partie plus culturelle, là où on a toute une dimension de concert, également en dehors de la basilique, puisque nous avons un partenariat avec la mairie de Toulouse et la chapelle des Carmélites, et voilà, également d'autres concerts en région et en France, et même parfois à l'étranger. Là, le grand chœur rentre de Rome, où nous avons eu quelques belles surprise, Basilique Saint-Pierre, Basilique Saint-Paul hors les murs, donc de beaux endroits pour faire de la belle musique.
Vos chanteurs, ils viennent d'où pour la plupart? Beaucoup conservateurs de Toulouse, ils datent pour les plus jeunes, et puis des grands amateurs aussi. Hein.
Alors on a un peu de tout, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'on essaie de former, alors il ne faut pas oublier que c'est une Schola Cantorum, donc une école de chant, et donc nous essayons de former les choristes.
Et de les accompagner.
Donc. Voilà, ils viennent donc d'un peu tous les horizons. Si on parle de la maîtrise, donc il y a des enfants, donc ça commence bien jeune, on a là un partenariat avec l'école, tout le groupe scolaire Saint-Joseph-Lassalle, donc forcément le vivier se trouve là-bas. Et sinon, pour les autres chœurs, c'est le bouche à oreille qui fonctionne pas mal. Alors, bien entendu, nous avons des gens qui viennent du conservatoire, de la faculté du Mirail, et d'autres personnes qui aiment chanter, tout simplement. Et là, forcément, ça forme un tout assez cohérent, je dois dire, aujourd'hui, qui se défend plutôt pas mal. Et voilà, et le but du jeu, c'est qu'on ait cette espèce d'homogénéité qui est un petit peu dure à avoir entre certains qui ont un prix de chant et d'autres qui s'y mettent un petit peu sur le tard, mais qui fonctionne plutôt bien. En tout cas, c'est le challenge qu'on essaie de se fixer.
Et c'est tout le travail des chefs et du vôtre en particulier. Alors, il y a eu aussi des enregistrements.
Il y a eu un enregistrement, un disque que nous avons enregistré l'an dernier, qui prenait cadre dans le centenaire de Gabriel Fauré, dont vous avez dû parler en long, en large, en travers, toute cette année.
Ça, du Fauré, cette année, on en a eu.
Donc voilà.
C'est pas pour nous déplaire, d'ailleurs.
On a enregistré, bien entendu, son fameux Requiem, ainsi que son œuvre de jeunesse, qu'il a composée quand il avait 19 ans, le cantique de Jean Racine. Et également des œuvres de son maître, César Franck, dont le Dextera Domini, et également une création mondiale qu'avait faite Emmanuel Pellaprat, qui était au clavier du grand orgue Cabaye-École de la Basilique pour cette occasion, et qui là nous a déniché une prière qui était inédite jusqu'alors.
Emmanuel Pellaprat, qui est le président de la Schola Cantorum et qui compose pour vous.
Tout à fait, exactement.
Parce qu'il y a un soutien aussi à la création dans votre
on essaie
mission,
vraiment,
si l'on peut
dire. On essaie d'être éclectique, c'est-à-dire que dans la dimension chantée, il y a effectivement beaucoup de chœurs qui se défendent à Toulouse, c'est le moins qu'on puisse dire, et on en est très heureux. Il y a une très saine émulation autour de ces chœurs-là. Et on essaie aussi de créer, d'exporter un petit peu Saint-Sernin ailleurs, et ça passe aussi par la création musicale. Et donc, très prochainement, on va essayer de publier ce que nous écrivons, et je pense que là aussi, il y a des choses à dire. La tâche est immense, mais le défi est beau.
Et donc, ce samedi 14 décembre à 20h30 à la Basilique Saint-Sernin, vous donnez votre grand concert de Noël. Alors, soit c'est un rendez-vous traditionnel, évidemment.
Voilà, c'est ce qu'on attend d'un chœur liturgique. Et donc, forcément, qui dit chœur liturgique dit concert de Noël à Saint-Sernin, où il est toujours agréable et toujours un honneur de chanter dans cette basilique si extraordinaire. En plus, il n'y fait pas encore tout à fait froid. Donc, c'est un bonheur de faire ça autour d'un programme très éclectique, comme d'habitude, puisque le concert de Noël de la Schola, c'est le concert qui permet d'entendre les 4 chœurs. Et en plus, le petit dernier, qui n'est pas un chœur, mais notre orchestre baroque que nous venons de créer.
Alors ça, voilà, ça va être une première, hein, maintenant. Orchestre baroque, donc.
Tout à fait.
Petit orchestre, pour l'instant.
C'est un petit orchestre. Alors, de toute façon, ça va de pair avec les œuvres que nous allons jouer. Donc, c'est un orchestre, là, qui comportera 8 musiciens, tout simplement quelques archets de flûte et également le continuo sur un orgue positif et ensuite qui seront rejoints par les chœurs.
Musiciens qui sont aussi issus de la formation musicale toulousaine ou qui viennent d'autres horizons?
Absolument, on est sur du produit local, produit bio, les meilleurs par chez nous.
Donc effectivement,
voilà, on en a qui viennent du Conservatoire de Toulouse et d'autres de Montauban. Donc voilà, on reste dans la production du sud-ouest et ça va aller même jusqu'à la prononciation du latin.
Ah oui, ça, je sais que c'est un de vos chevaux de bataille.
À la française.
À la française du sud-ouest.
En plus.
Voilà. C'est pas Gallican, c'est carrément Gallican sud-ouest, voyez. Alors, la grande œuvre au programme, c'est la messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier. On va en parler avec vous, bien sûr, mais je propose qu'on écoute d'abord son Agnus Dei avant de nous intéresser aux autres pièces que vous allez interpréter avec vos musiciens. Agnus Dei de la messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier qui occupe donc la seconde partie de votre grand concert de Noël ce samedi 14 décembre à Saint-Cernin. Alors dans le genre œuvre de Noël, parce qu'il y en a beaucoup d'autres évidemment, pourquoi ce choix? C'est une œuvre que vous affectionnez particulièrement?
C'est une œuvre, c'est presque un peu facile. C'est vrai que je peux entendre la critique.
Ah, c'est pas une critique du tout de ma part.
Mais c'est vrai qu'on a, elle fait partie presque des poncifs. Alors, il y a des œuvres qu'on connaît, qu'on entend, et c'est à forte raison parce qu'elles sont réussies. C'est le cas de cette messe, je pense. Non, c'est tout simplement parce qu'elle ne nécessite pas une instrumentation trop conséquente. Donc ça, c'était pour nous un atout pour la création d'orchestre. Oui. Et également, elle parle à tout le monde parce que c'est un patchwork extraordinaire, cette messe, de 10 Noëls traditionnels que l'on peut chacun siffloter à sa guise, puisque il y en a certains qui sont extrêmement connus, et le but du jeu, c'est d'avoir cette espèce de dimension très populaire et en même temps de musique savante. Et je trouve que c'est un pari très réussi par Marc-Antoine Charpentier qui réussit là la synthèse de la dimension populaire de Noël et en même temps de son côté aristocratique. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a passé le concours pour aller à la chapelle royale de Versailles. Il a échoué parce qu'il était tombé malade, mais il avait obtenu les faveurs du roi et il avait pu mener cette carrière de musicien d'ailleurs un peu comme il entendait, puisque comme il ne faisait pas publier ses œuvres pour passer sous le radar du surintendant de la musique Lully, qui avait la main mise sur toutes les publications du royaume, il était finalement assez libre, bien que parisien, puisqu'il a composé cette messe, on pense que c'est pour Noël 1694. Il était à l'époque à l'église Saint-Louis, qui était la grande église jésuite de Paris, et c'est vrai qu'il avait ce côté un petit peu avec les moyens du bord. Alors, il avait certes des instrumentistes et des choristes, mais c'est pour ça que l'instrumentation est assez tenue, et c'est pour ça qu'on voulait rendre hommage à cette messe, qui est vraiment joyeuse, et qui en plus, en dehors du côté populaire, est très sympa à écouter. Pourquoi ? Parce qu'elle reprend des danses. Les gavottes, on parlait de pavane tout à l'heure. Donc, il y a effectivement ces danses et cet aspect dansé si naturel au baroque, comme le disait Philippe Bossan, que je trouve extraordinaire.
Et puis je trouve que c'est aussi jouissif à chanter, il me semble en
c'est
tout
vrai.
Cas. Avant d'en arriver là, il y a une première partie. Alors qu'est-ce qu'on va y entendre dans cette première partie ?
Alors là, on va avoir un fourre-tout, mais qui est un peu organisé quand même. On a deux lignes conductrices cette fois-ci. La première, ça se situera autour d'un chant, le O Magnum Mysterium. Alors ça, c'est un chant particulier, grégorien, qui s'est étalé sur ensuite plusieurs siècles et qui a des manifestations, réinterprétations, réécritures contemporaines. Là, on va en entendre trois versions. Alors, on va entendre le grégorien à la fin, cette fois-ci. Et auparavant, on va entendre deux versions contemporaines. La première, c'est celle de Busto, compositeur qui est encore en vie.
Javier Busto.
Voilà, qui est espagnol et qui compose des merveilles. Celui-là en particulier, je trouve très très réussi, avec un début très très nébuleux, avec les chœurs qui s'entrechoquent, il n'y a pas d'homorythmie, et finalement, quand on va avoir la naissance du Sauveur, avec des Alléluia triomphales, et on va avoir quelque chose de beaucoup plus déclaratif. On va poursuivre avec le chœur d'homme qui va chanter toujours le O Magnum Mysterium, mais cette fois-ci de Morten Lauritsen, une version absolument extraordinaire. Alors, elle vient du compositeur lui-même qui a décidé de garder la même tonalité. Ça, c'est très rare, parce que d'habitude, il change la tonalité pour que ça colle avec les voix d'hommes. Là, il fait une réharmonisation de sa propre œuvre et c'est assez incroyable. Moi, je ne l'ai pas encore entendu, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et on terminera avec le grégorien. Et ensuite, il va y avoir l'autre partie avec la maîtrise et le cœur d'homme, où là, ça sera réservé aux Noëls traditionnels, ce qui nous permet de faire la transition entre ce Omanium Mysterium et les Noëls traditionnels qui sont repris dans la messe de minuit de Charpentier.
C'est des pièces que vous avez déjà chantées en concert pour certaines ?
Alors, certaines pièces, oui, nous les avons déjà chantées, les Omanium en particulier. La messe de minuit, c'est donc une première pour
et là,
nous. Et tout le répertoire baroque, c'est également assez nouveau. C'est vrai que jusqu'à présent, on se cantonnait au 19e siècle et au 20e siècle. Là, c'est notre première incursion dans ce répertoire baroque ou classique, parce que je ne veux pas fâcher les puristes, classique français, va-t-on dire, qui est une belle épreuve, un beau défi à relever.
Eh bien, nous allons pouvoir écouter maintenant un Omanium Mysterium interprété par la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin. Il s'agit de celui du compositeur américain contemporain Morten Lauritzen. Omanium Mysterium, pièce de Morten Lauritzen, interprétée par la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin. Elle est au programme de la première partie de votre grand concert de Noël à Saint-Sernin ce samedi 14 décembre à 20h30. Nous avons trois autres événements à vous annoncer pour la semaine à venir. Et tout d'abord, le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole. Je vous en ai parlé tout à l'heure en première partie d'émission. Jeudi 12 décembre à 20h à la Halle aux Grains, il va être dirigé par le chef israélien Omer Meir Welber et il va nous permettre de retrouver un grand instrumentiste franco-suisse que, comme Jean-Yves Thibaudet, on n'a pas entendu depuis un bon moment à Toulouse, Serge.
Eh oui, il s'agit d'Emmanuel Palude, donc grand flûtiste, qui est né à Genève en 1970.
Donc, pour ça, j'ai bien dit franco-suisse.
Hein. Exactement. Et tout de même, alors qu'il a gagné de nombreux prix internationaux, mais surtout, à l'âge de 22 ans, il a été nommé au poste prestigieux de première flûte de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, ce qui n'est pas...
Tenez à tout le monde.
Peu de choses, et un poste qu'il occupe encore de nos jours. Et donc, il sera là, le soliste d'un concerto qui a été composé pour lui, par Marc-André Dalbavy, qui lui est né en 1961, et qui a été créé, ce concerto, en 2006 à la Philharmonie de Berlin, justement, par le dédicataire, évidemment, Emmanuel Palude. Donc on aura de nouveau ce magnifique concerto, et qui sera encadré par deux symphonies de Joseph Haydn, à l'écriture particulièrement moderne, il faut le reconnaître, la symphonie numéro 26, Lamentation, et la symphonie numéro 49, La Passion, ces symphonies très classiques qui encadreront la création à Toulouse du concerto d'Albavi, je suppose que c'est la création à Toulouse. Voilà. Et puis, une grande pièce symphonique complétera le programme. Il s'agit d'une œuvre d'Ottorino Respighi, que l'on connaît beaucoup pour les pains de Rome, les fontaines de Rome, etc. Mais pas vraiment pour cette pièce qui s'appelle Métamorphoséon.
Bon, moi, je pense que c'est une inspiration des Métamorphoses d'Ovide.
Ça doit être ça.
Pour un Italien, il y a des chances.
Sa composition date de 1930. Elle est vraiment rarement
jouée. C'est des variations. Je crois que c'est 12 variations sur un
thème.
Exactement.
Voilà.
Un programme original, là encore.
Un programme original, donc dirigé par Omer Meir Welber, qui est tout heureux de signaler qu'il a eu comme mentor Daniel Barenboim. Oui. Ce qui est quand même une référence aussi. Et donc,
oui, c'est vraiment un cas, Omer Meir Welber, parce qu'il est chef d'orchestre, compositeur et romancier.
Exactement, donc
voilà
triple carrière.
Un profil assez singulier.
Oui, oui, oui.
Eh bien, nous allons écouter une version du concerto pour flûte de Marc-André d'Albavi, celle enregistrée par Emmanuel Pahu il y a un peu plus de 15 ans. Un extrait du concerto pour flûte de Marc-André d'Albavi dans une version enregistrée par Emmanuel Pahu avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France en 2008. Le grand flûtiste se produit donc aux côtés de l'Orchestre National du Capitole ce jeudi 12 décembre à 20h à la Halle au Grain. Et puis samedi 14, dans la série des concerts de Noël, il y a celui que donne l'Orchestre des Passions de Montauban à l'église Saint-Exupère. Il est dirigé bien sûr par son fondateur Jean-Marc Andrieux. Ce concert commence à 18h30. C'est un Noël occitan, Serge.
Oui, exactement. Donc le programme offrira une sélection de chants de Noël d'Occitanie. Et donc on voyage à travers le temps et les modes, en passant de la Renaissance à l'époque baroque, avec vraiment un programme très varié d'œuvres diverses, comme ils l'ont déjà fait. Hein, ils l'ont même enregistré déjà
un
CD de Noël occitan avec la formation Les Passions, hein, avec chant, percussion, flûte. Et puis il y aura Xavier Vidal qui joue à la fois du violon, de la boudègue.
Xavier Vidal qui a longtemps dirigé le département musique traditionnelle au conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. C'est même lui qui l'avait fondé.
Absolument. Et donc, il joue également de la percussion, il chante. Et nous entendrons également Christopher Gibert qui joue de l'orgue et qui chante également. Et puis Jean-Marc Andrieux qui non seulement dirige mais joue de la flûte à bec.
Excellent flûtiste à bec, Jean-Marc. Et puis Muriel Badby-Castel au chant et aux percussions.
Ouais.
Muriel Badby-Castel, c'est la voix du métro, vous savez, pour l'annonce des stations en occitan, c'est elle. Comme Xavier Vidal d'ailleurs, ce sont des gens qui défendent évidemment le répertoire traditionnel et la langue occitane en ce qui concerne Muriel. Et puis il y aura Pascal Caumont aussi au chant et à la flûte. Voilà, que des spécialistes, hein, pourrait-on dire, de ces musiques. On va écouter Les Passions dans une interprétation d'un chant de Noël occitan, La Bonna Novella, La Bonne Nouvelle, une version enregistrée à l'époque avec les sacs-boutiers. Thank you.
bonne nouvelle que nous vengue d'un du nos caisses
La Bona Novella, la bonne nouvelle, chant de Noël occitan dans une version des Passions de Montauban et des Sacboutiers. Les Passions donnent donc leur programme Noël occitan ce samedi 14 décembre à l'église Saint-Exupère de Toulouse lors d'un concert qui commence à 18h30. Et puis dernier rendez-vous à noter sur vos agendas, le prochain concert du cycle des grands interprètes lundi 16 décembre à 20h à la Halle au Grain. Une seule œuvre au programme, les célèbres 4 saisons de Vivaldi, que vont interpréter les musiciens du Concert de la Loge sous la direction de leur fondateur, le violoniste Julien Chauvin. Mais attention, ils ne sont pas seuls sur scène, Serge.
Et non, puisque nous entendrons et nous regarderons les 4 saisons, puisqu'ils seront accompagnés de la compagnie de danse fondée par Mourad Merzouki, un chorégraphe, une figure du mouvement hip-hop, et qui va s'associer...
La compagnie Kefig,
signifie cage en arabe et en allemand, donc ce nom qu'il a choisi pour indiquer son parti pris d'ouverture et son refus en quelque sorte de s'enfermer dans un style déterminé. Et donc on aura les 4 saisons de Vivaldi, les 4 concertos pour violon et orchestre à cordes, extraits des 12 concertos intitulés Il Cimento dell'Armonia dell'Invenzione, donc la confrontation entre l'harmonie et l'invention, vraiment très original.
Et puis c'est mis en scène, je crois, enfin, c'est scénographié, il y a des costumes, il y a des lumières, c'est un
Absolument.
Vrai spectacle.
Donc c'est un concert à voir et à entendre.
Eh bien, pour le plaisir, un petit extrait des 4 saisons dans une version enregistrée en 2023 par le Concert de la Loge. Il s'agit du premier mouvement Allegro non molto de l'hiver. Thank you. Le premier mouvement Allegro non molto de l'hiver, extrait des quatre saisons de Vivaldi dans la version enregistrée par le Concert de la Loge l'an dernier. Vous avez donc rendez-vous avec cet ensemble et les danseurs de la compagnie Kefig lundi 16 décembre à 20h à la Halle au Grain. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Jeudi 12 décembre à 20h, c'est aussi à la Halle au Grain qu'a lieu le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, sous la direction d'Homer Mer-Velbert et avec le flûtiste Emmanuel Pahut, en soliste invité pour jouer le concerto pour flûte de Marc-André Dalbavy. Vous pouvez acheter et réserver vos places à l'adresse www.onct.toulouse.fr. Pour le concert Noël Occitan que donnent les Passions de Montauban ce samedi 14 décembre à 18h30 à l'église Saint-Exupère de Toulouse, la billetterie est en ligne sur le site www.les-passions.fr. Concernant le grand concert de Noël de la Schola Cantorum à la Basilique Saint-Sernin, samedi 14 décembre à 20h30, la billetterie est en ligne sur le site www.scola-saint-cernin.com. Et puis enfin, les amoureux de musique et chants orientaux peuvent noter le concert de Noël qu'organise la mission maronite de Toulouse. C'est à l'église du Christ-Roi, également samedi 14 décembre à 20h. Et le lendemain, à l'abbaye d'Ancalcate, à Dourne, dans le Tarn, dimanche 15 à 15h30. Et c'est au profit des jeunes étudiants libanais. Un grand merci à Serge Chosy et Jean Percy d'avoir participé à cette émission. Merci également à Christophe Aubry, le réalisateur de ce numéro. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à tous ceux qui nous ont encore écoutés aujourd'hui. Très bonne semaine musicale à tous.